Sud Radio, c'est ça la France.
Bonjour à tous, bienvenue dans C'est ça la France, l'émission qui met en avant les talents français chaque semaine, les success stories, les belles initiatives. Notre seule condition ici, c'est que ce soit fabriqué en France, produit en France. Alors aujourd'hui, notre émission est consacrée au pôle de compétitivité, Quesaco. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, ils sont indissociables de l'innovation française. Ils ont été créés en 2004 pour soutenir la croissance française via l'innovation. À quoi servent ces clusters français, comme on les appelle également? Quel est leur rôle, leur plus-value? On en parle tout de suite dans C'est ça la France.
Sud Radio, C'est ça la France.
Bonjour Jean-Luc Béla.
Bonjour Nathalie.
Vous êtes président du pôle francilien systématique Paris-Région, un pôle de compétitivité. Alors est-ce que vous pouvez nous définir déjà ce qu'est un pôle de compétitivité?
Alors comme vous l'avez dit à l'instant, ils ont été créés en 2004, donc ils ont un peu plus de 15 ans. Les pôles de compétitivité, en fait, c'est des structures qui s'inscrivent dans un territoire avec une thématique donnée.
Donc il y a toujours un ancrage territorial.
Il y a un ancrage territorial, c'est très important, puisque l'écosystème, c'est l'élément structurant de l'innovation. Donc pour illustrer, vous avez le pôle Aerospace Valley à Toulouse, autour de la thématique de l'aéronautique. Vous avez le pôle Médicène en Ile-de-France, autour de la médecine, la santé. Donc il y a le territoire et une thématique.
Il y en a combien aujourd'hui de pôles de compétitivité?
Alors c'est une bonne question, parce qu'au départ, il y en avait à peu près 70, et puis donc récemment, le gouvernement a fait une nouvelle phase, comme on dit, et il en a sélectionné 48 premier tour, et puis il y en a 8 qui attendent une labellisation selon des conditions qui seront connues, enfin ils le sauront bientôt.
Donc l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir réunir davantage ses forces, plus structurer davantage ses pôles de compétitivité?
Alors l'idée, déjà quand on parle d'innovation, il y a 4 piliers importants pour développer l'innovation. Il y a l'argent, ouais. Il y a l'esprit d'entreprise, il y a les compétences et il y a la puissance des écosystèmes. Alors quand vous allez à Tel Aviv, dans la Silicon Valley, ces 4 piliers sont extrêmement forts. En France, bon, maintenant il y a un peu plus d'argent, mais pendant longtemps il n'y avait pas forcément eu beaucoup d'argent. Il en manque toujours d'ailleurs pour développer une grande politique d'innovation. L'esprit d'entreprise, ça s'est beaucoup amélioré depuis 10 ans, mais ce n'était pas forcément une chose naturelle culturellement en France. Et puis il y a les 2 autres piliers qui sont les compétences et les écosystèmes. Et dans un excellent rapport avant 2004, Christian Blanc avait dit qu'il faut jouer sur l'enjeu des compétences des écosystèmes et donc faire en sorte que dans un endroit, des grands groupes, des PME, des acteurs académiques échangent entre eux et créent cette dynamique qui vous incite à aller explorer un nouveau champ et vous permettre d'innover. C'est ça qui fait la force de la Silicon Valley où vous avez un professeur d'université qui crée une start-up, qui revient à l'université, etc. Un espèce de cercle virtueux qui donne de la puissance à l'écosystème. Et c'est ce qui a été développé en France avec, au sein des pôles de compétitivité, avec beaucoup de succès et d'impact, puisque des solutions comme utiliser des drones pour regarder des champs agricoles ou d'utiliser les compétences mathématiques des data pour regarder la médecine de demain, tous ces sujets-là ont été mis en chantier grâce à la puissance des écosystèmes des pôles de compétitivité.
Vous parliez de la Silicon Valley à l'instant, les pôles de compétitivité sont vraiment inspirés des clusters américains? Il y a des différences entre eux ou c'est vraiment le même système? Avoir un groupe de recherche et développement, avoir justement les start-up, des scientifiques, des industriels?
En fait, souvent, quand les pouvoirs publics ont mis en chantier l'innovation, ils ont envoyé plein de gens, visiter le monde, etc. Puis ils se sont dit, aux États-Unis, on fait ça. Voilà, il ne faut pas dupliquer, en fait. Il faut certainement regarder, apprendre, écouter, mais il ne faut pas dupliquer. Et justement, l'intelligence des pôles de compétitivité, ça a été de faire quelque chose qui s'adapte bien au modèle français. C'est-à-dire qu'il y a une culture d'ingénierie en France qui est assez puissante et assez profonde dans le temps. Et donc l'idée, c'était d'utiliser à la fois cette connaissance-là, de regarder comment étaient constitués les bassins d'emploi. En Ile-de-France, les gens ne le savent pas bien, mais c'est le premier bassin de recherche et de développement d'Europe, donc extrêmement, avec un potentiel énorme. Et puis de faire du leverage, comme on dit en bon français, de ça pour atteindre une nouvelle dimension. Et justement, les pôles de compétitivité, c'est une structuration assez française, qui est d'ailleurs regardée au sein de l'Europe avec envie, donc il faut le dire quand c'est souvent le cas. En Belgique, le modèle a été un peu copié. En Allemagne, maintenant, le modèle aussi est un peu copié. Donc voilà, ça c'est vraiment cette idée originale, c'est-à-dire d'avoir trouvé quelque chose qui s'adapte bien au système français, et puis qui en 15 ans, il faut le dire, parce que on ne le dit jamais assez, a vraiment eu beaucoup d'impact sur l'économie française en termes de création d'emplois.
On a des chiffres.
Dans les pôles, il y a 10 000 entreprises innovantes, c'est-à-dire les entreprises qui créent de l'emploi, qui se projettent à l'international, etc. Elles sont au cœur des pôles sur les différents territoires. On a aussi toutes les politiques d'innovation qui ont été portées par les pôles. Lorsque les investissements d'avenir ont été mis en place, il y a des structures comme les instituts de recherche technologique, les SAT, etc., qui ont été créés. Souvent, les pôles étaient derrière pour apporter des éléments, même les French Tech. On a oublié, mais voilà, les French Tech, les premières générations de French Tech ont été animées d'abord par les acteurs des pôles. Donc, il y a cette implication. Et puis, sur des nouveaux enjeux, comme l'intelligence artificielle, la blockchain, des choses dont on entend parler depuis quelques années, ce sont des choses qui existaient, qui ont émergé au sein des pôles de compétitivité. Donc, l'impact en termes de périmètre d'innovation et l'impact économique, il est là. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs rapports sur les pôles. C'est l'objet d'une grande littérature. Mais le rapport de la Cour des comptes, généralement, il y a des rapports de la Cour des comptes, on lit et puis on les pose à côté. mais là, j'encourage vraiment à le lire parce qu'il est très positif sur l'impact économique des pôles.
Alors, vous le disiez à l'instant, les pôles de compétitivité, donc on peut dire que c'est une création française, enfin, inspirée des clusters américains, mais effectivement, ils ne sont pas là pour imiter des business models déjà existants, mais pour soutenir de nouveaux modèles disruptifs. Je sais que vous aimez ce terme-là, c'est important pour vous, l'innovation de rupture.
En fait, moi, je considère même que c'est un pléonasme, donc bon, c'est-à-dire... Innover, c'est apporter quelque chose de nouveau sur le marché. C'est la définition la plus simple que je connaisse. Et en l'occurrence, notre société appelle ça. Aujourd'hui, on a des enjeux démographiques impressionnants, des enjeux écologiques que tout le monde connaît, des enjeux économiques. Donc on sait bien que les solutions d'hier ne marchent plus. Et donc, il faut se projeter différemment sur l'alimentation de demain, il faut se projeter différemment sur la mobilité de demain, et donc il faut aller en rupture de ce qui est établi, apporter quelque chose de nouveau par rapport à la question posée. Et donc c'est vraiment cette démarche-là qu'il faut qu'on ait au sein de la communauté française. C'est très important parce qu'à l'échelle du monde, les choses vont très vite. Souvent, les gens se rendent pas bien. Les gens qui ne voyagent pas ne se rendent pas bien compte de ça. Mais ces transformations sont vraiment fondamentales à l'échelle du monde. Il ne faut pas que la France devienne une espèce de Disneyland des touristes, etc. Il faut vraiment... Non, parce qu'il y a... Il peut y avoir ce risque, il y a beaucoup de choses belles, mais il faut se projeter dans la
société. Il faut pas vivre sur ses acquis, en fait.
Voilà, il faut se projeter dans le 21e siècle.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire que l'un des enjeux, justement, d'un pôle comme celui que vous présidez, c'est d'être capable d'identifier les technologies qui ont un réel potentiel d'industrialisation, mais à un niveau européen ?
Ah ben, au niveau mondial même.
Mondial.
Et d'ailleurs, en fait, bon, c'est un peu la réflexion qu'on a menée au sein du pôle systématique Paris-Région, c'est-à-dire de comprendre le cœur de ces transformations technologiques, mais de ne pas avoir, comme c'est souvent le cas d'ailleurs en France, quelque chose qui est motivé par la technologie. C'est-à-dire, je sais pas, on fait un train à grande vitesse et puis après on regarde comment les masses se déplacent. Je dis ça, c'est pas du tout un procès pour ceux qui l'ont fait, mais voilà. Mais et donc d'avoir aussi en même temps une réflexion du pourquoi de ces transformations, qu'est-ce qui va être vraiment différenciant, et d'associer ces deux côtés d'un cerveau, si vous voulez, pour aller de l'avant. Et ça motive énormément les entreprises, puisque finalement au cœur des pôles, ce sont des entreprises qui sont elles aussi un peu perdues dans les transformations, donc elles veulent penser leur transformation en amont. Donc c'est à la fois un lieu, un pôle de compétitivité où on conduit la transformation, mais d'une certaine manière, on la prépare et on la pense.
Alors, intéressons-nous maintenant à votre pôle de compétitivité, celui que vous présidez, Systématique Paris Région. Comment est-il organisé ? Combien d'entreprises ? Combien de centres de recherche ?
Alors, déjà, il faut dire, c'est pas du tout... Restez humble, mais Systématique, c'est un très gros pôle. Il y a 1000 membres. Donc, et quand je dis 1000 membres, Total compte pour un, Renault compte pour un. Donc, il y a plus d'une centaine de grands groupes, de grosses corporates. Il y a un gros cœur académique, CNRS, INRIA, Institut Mines Télécom, avec le potentiel de l'Île-de-France. Il faut dire que là, on est gâté de ce point de vue-là. Et puis, le cœur, ce sont 600 PME innovantes. Alors, dans les pôles, ce sont plus des PME de 10, 20 qui grand jusqu'à 100, 200 personnes, que vraiment des start-up. Et d'ailleurs, je dis toujours aux start-up, venez dans le pôle quand vous avez un produit et vous avez déjà une équipe consistante.
Voilà,
parce qu'il faut interagir avec l'écosystème. C'est pas quand on a deux personnes, un jeu de slide, qu'on peut vraiment y contribuer. Et donc, on a 6 hubs autour de ces deep tech, et on a 3 enjeux qui sont des espaces de pensée d'anticipation de la transformation. Alors, vous allez me dire, quels sont les hubs, les
quels sont les six hubs?
Alors, on a l'open source qui est vraiment partout dans l'évolution logicielle. Tous les secteurs maintenant intègrent l'open source. C'est un élément de fédération de l'innovation et de rapidité pour se projeter dans l'innovation. On a la photonique.
Rappelez ce qu'est la photonique.
La photonique, en fait, c'est tous les capteurs, les lasers, tous les objets qui manipulent le photon, d'où la photonique, parce que c'est, les voitures autonomes de demain seront bardées d'équipements, voilà, avec de la photonique. La médecine utilise les infrastructures numériques, dans les fibres, il y a de la photonique partout. Donc la photonique, c'est vraiment une technologie structurante. On a ce qu'on appelle le digital engineering. Alors ça, derrière ce mot, on a les techniques de calcul de demain. Donc le quantum computing, pour ceux qui connaissent un peu, donc c'est une nouvelle technique de calcul. Et puis il y a le analog computing, donc il y a tout un tas de choses qui sont des fois avancées, des fois juste dans leur enfance, mais on les prépare. Il y a la cybersécurité, donc ça c'est la sécurité.
Gros sujet également,
très structurant, d'autant qu'on a des systèmes qui sont de bout en bout, avec des capteurs un peu partout, donc il faut vraiment appréhender ça. Il y a les infrastructures numériques et l'Internet des objets, donc on a rassemblé les deux. Les infrastructures numériques, c'est vraiment structurant, puisque tous nos systèmes vont être connectés à ces infrastructures numériques, qu'on parle d'énergie, qu'on parle de mobilité. Donc ça, c'est l'élément fort. Donc là, on voit les technologies, on voit les transformations, et à côté de ça, il y a les enjeux des territoires, les enjeux de l'industrie des services et les enjeux société. Dans les enjeux société, on va retrouver les enjeux alimentaires, la santé. Et donc là, par exemple, si je prends l'enjeu territoire, une des réflexions majeures sur la transformation des territoires aujourd'hui, c'est la mobilité. D'ailleurs, ça me permet de rappeler le sixième que j'ai oublié, qui sont l'intelligence artificielle et les data. J'aurais dû commencer par celui-là.
Ouais, un bel enjeu également.
Voilà. Et donc, prenons l'exemple de la mobilité. C'est un superbe exemple de transformation de la société où on voit que, pour faire simple, on n'a pas de solution de la mobilité quand on reste enfermé dans un silo. C'est pas seulement les acteurs de la voiture qui auront la solution, ce n'est pas seulement finalement les solutions de transport public qui seront la solution. On le sait aujourd'hui, quand on se dit qu'il faut améliorer la mobilité, on va construire des métros, mais ça coûte énormément d'argent. Et puis finalement, on est obligé de tailler l'objet pour le pic d'influence, donc ça coûte encore plus cher. Et finalement, ça ne marche jamais. Exemple, le RERB, pour ceux qui connaissent le RERB. Alors qu'il faut finalement fluidifier entre ces différents services pour avoir une mobilité. Et la mobilité de demain, c'est paradoxal, mais ça interagit aussi avec le travail, c'est-à-dire le télétravail, avec les décalages, les horaires de bureau, etc. Il n'y a pas de solution. On est dans une société qui doit avoir des raisonnements système. Ouais. Il faut bien comprendre qu'on rentre dans un monde où les ressources sont limitées. Finalement, il y a de plus en plus de gens qui ont accès à ces ressources. Ça, c'est une bonne nouvelle, mais la nouvelle qui est factuelle, c'est que ces ressources, voilà, globalement, sont limitées. Donc, il faut rentrer dans une économie plus de partage, et ça, il faut avoir une approche système, c'est-à-dire décloisonner les raisonnements.
C'est ça, réflexion commune, travailler ensemble entre ces hubs technologiques et tous ces enjeux sociétaux qui sont également importants, puisqu'on va vivre au sein de ces technologies. Donc il faut mettre le citoyen, j'imagine.
Le citoyen, et même par exemple sur le dessin de la ville de demain, le décideur, en fait, le rôle des structures, des maires même, seront changés. Ça, c'est vraiment des choses, des transformations importantes. Et donc, dans la démarche d'innovation, il faut à la fois tirer l'expertise qui va vous apporter la différence, et puis tirer l'analyse, la réflexion sur la transformation de la société. Encore une fois, c'est pas du techno-push, pour reprendre c'est vraiment, il faut apporter des bonnes solutions au réel problème.
Et c'est ainsi que ces pôles de compétitivité accompagnent donc les entreprises dans le développement de leur innovation, et j'imagine aussi la mise sur le marché.
Alors,
qui est importante.
Donc, une fois qu'on a ces technologies qui sont visibles, ces enjeux, etc., après, l'enjeu majeur, c'est le développement des entreprises. Donc, au sein des pôles, c'est pas simplement la connexion entre les acteurs, mais il faut, capter les bonnes compétences. Aujourd'hui, la compétition est sur attirer les bonnes compétences. Si vous avez les bonnes compétences, vous allez vous projeter sur les bons enjeux et vous allez aller plus vite. Se développer à l'international. Et pour ça, il faut se mettre sur le marché. Donc, l'Europe, c'est un marché compliqué, parce qu'à la fois c'est un marché, mais en fait c'est une somme de marchés. Donc il faut aider les entreprises pour se développer au sein de l'Europe, mais aussi en international, en Chine, aux États-Unis, et les aider à grandir, les aider à capter des fonds. Donc tous les éléments, toutes les briques d'une démarche innovante pour une entreprise, les pôles, les acteurs systématiques, quand on travaille avec les entreprises, on travaille sur tous ces éléments-là.
Merci beaucoup Jean-Luc Béla. Je rappelle que vous êtes président du pôle francilien systématique Paris Région.
Merci.
Sud Radio, c'est ça la France. Midi, midi 30, Nathalie Schrengirma.
Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans notre émission consacrée au pôle de compétitivité. Alors pourquoi ces pôles? Pourquoi nos entreprises ont besoin de ces pôles de compétitivité pour se développer? En quoi ces pôles proposent un environnement favorable? On en parle tout de suite dans notre France qui innove.
Sud Radio, c'est ça la France qui innove et la French Tech.
Bonjour Marc Lepage.
Bonjour.
Alors vous êtes le chef d'entreprise, le CEO de All In Factory.
Oui.
Et vous avez créé, donc, on en parlera tout à l'heure, Watt Park. Attention, ça
tout
va bouleverser notre façon de, notamment si on a une voiture électrique, notre façon de concevoir la voiture électrique, notamment le parking de la voiture électrique. Alors justement, vous avez fait appel aussi à un pôle de compétitivité, le pôle Moveo, qui est un pôle de compétitivité qui est vraiment spécialisé dans l'automobile.
Ah oui, il est spécialisé dans l'automobile et je connaissais déjà le responsable Marc Charlet depuis déjà pas mal d'années pour avoir travaillé sur comment l'autopartage. Donc tout ce qui est mobilité en fait est cadré dans Moveo. Et en l'occurrence, il y a à la fois les véhicules autonomes et à la fois en fait les infrastructures de charge pour les véhicules électriques et les véhicules électriques. Tous ces aspects-là en fait. Le fait d'avoir dans les tours de table avec le pôle Moveo la possibilité d'échanger avec les industriels, eh ben, ça, c'est ça qu'offre. En
c'est
fait,
l'écosystème qui est important.
Exactement, et non seulement l'écosystème, mais il y a des portes d'entrée en fait, qui se font grâce en fait, à ces pôles de compétitivité.
Alors justement, concrètement, de quelle façon Moveo a boosté votre entreprise? Vous avez eu besoin de quoi?
Déjà, il nous a mis en rapport avec... La première chose, c'est nous faire connaître.
Gagner en notoriété.
Exactement. Et donc, dans le milieu de la mobilité. Moi, je ne viens pas spécialement de ce milieu-là. Donc, il y a des fois des gens qui viennent directement du milieu. Moi, je viens de l'armement. Donc, ça n'a absolument rien à voir. Et grâce à Moveo, en fait, j'ai pu côtoyer en fait, directement l'ensemble de l'industrie automobile, pas que d'ailleurs française. Et ensuite de ça, ça nous a permis aussi de regarder qu'est-ce qui se faisait sur le marché, donc d'analyser plus finement si ce que l'on avait en tête et ce que l'on voulait développer était pertinent ou non. Et là, pour le coup, sans le pôle Moveo, eh bien, en fait, c'est quelque chose qui est très difficile à appréhender.
Donc il y a de gros avantages à pouvoir être porté par un pôle de compétitivité quand on est une start-up comme la vôtre et qu'on souhaite se développer. Est-ce que vous aviez en tête? C'était Watt Park. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, on a une chose devant vous, là, toute ronde, pour ceux qui ne nous voient pas. Et effectivement, on dirait un buzzer. Mais ça n'est pas un buzzer, c'est une borne.
Voilà. Alors, en règle générale, les bornes de charge, on est ce qu'on appelle dans la charge lente, en fait. C'est l'équipement des places de parking au quotidien pour les utilisateurs de véhicules électriques. Donc, il n'y a pas de démarche chez nous... de superchargeurs à la base. Il y a des extensions, mais pas de démarche purement superchargeur. Donc, d'après le Boston Consulting Group, ça concerne 80% des utilisateurs du véhicule électrique.
Donc, on parle bien d'une borne de charge pour voiture électrique.
Tout à fait. Et la particularité de notre borne, c'est qu'elle permet en fait à tout un chacun de venir se connecter dessus, de la réserver, ce qui n'est pas le cas dans quasiment classiquement, ce n'est pas le cas des bornes actuelles. Vous pouvez la réserver votre place, parce que la plus grande difficulté quand vous avez une voiture électrique, c'est d'arriver et que la place soit occupée. En général, les gens sont partis, donc c'est-à-dire que vous poireautez. Et quand vous avez une voiture électrique, bah, vous ne pouvez pas vous déplacer, parce qu'une fois que vous n'avez plus d'énergie, c'est fini.
On n'avance plus. Là, ce qui veut dire que là, on peut non seulement réserver sa place à l'avance, donc avant de se déplacer, on la réserve, et en profiter pour se recharger et repartir.
Exactement. Tout a été conçu de cette manière-là. Et en fait, la démarche est assez simple. Ce n'est pas un coup de génie. C'est tout simplement d'utiliser des voitures telles qu'elles étaient déjà il y a à peu près 3-4 ans. C'est-à-dire des voitures qui ont un rayon d'action de l'ordre de 100 km. Et si tous les jours, vous faites déjà vos 100 km, il est clair qu'il y a un problème de charge. Donc, ce que vous faites, alors c'est un peu pour la petite histoire, mais ce que vous faites, c'est que vous avez en fait des applications comme ChargeMap qui permettent en fait de localiser des endroits où vous pouvez vous charger. Alors, il y a évidemment les supercharges, mais il y a aussi des particuliers qui vous offrent la possibilité de venir gratuitement vous charger chez vous.
C'est en ça que ça diffère avec ce qui...
Alors, tout à fait. Le problème de cela, c'est là où est venue l'idée de Watt Park, c'est que ces gens-là, vous les appelez. Au bout d'une heure, vous avez bien fait connaissance avec eux, puisque c'est un monde, pour l'instant, ça reste encore un monde un petit peu isolé, le monde de la voiture électrique. Et à un moment donné, vous dites à la personne, je vais venir, par exemple, à 17h. Et puis la personne vous dit, ah ben non, il va falloir attendre 20 heures. Ouais. Et donc c'est là où on voit l'intérêt de la borne, puisque cette borne-là, je vais pouvoir, avec mon téléphone portable, même s'il n'y a pas de réseau, dialoguer avec elle, mon téléphone va dialoguer avec elle, et elle va s'ouvrir, je vais pouvoir me brancher, je vais pouvoir consommer l'électricité de mon hôte, cette personne.
Donc on s'affranchit du dialogue avec l'hôte.
en partie, puisqu'en fait, quand je vais me connecter, il va avoir un message comme quoi je suis chez lui. Ouais. Puisque, en fait, c'est le principe du Airbnb.
C'est ça.
C'est-à-dire que je vais venir avec ma voiture chez lui, il faut que ce soit chez lui. Hein. En France, actuellement, on n'a pas le droit de vendre de l'énergie. En tout cas, c'est un domaine réservé à Enedis. En l'occurrence, là, c'est une prestation. Vous louez votre place de parking chez vous, vous avez le droit de le faire. Et en l'occurrence, l'électricité, vous allez savoir exactement la consommation qu'il va y avoir et vous allez pouvoir le facturer.
C'est une borne collective. Alors, combien ça coûte ? Combien ça coûte déjà par rapport aux bornes existantes que l'on peut déjà avoir dans les collectivités ? Parce que là, on parle du particulier, mais les collectivités pourraient également s'équiper de ces bornes-là. Et en quoi elles se distinguent des bornes actuelles, mis à part le côté collectif ?
Alors, elle se distingue dans le fait que l'objectif que j'ai recherché, c'est d'avoir déjà un modèle économique qui fasse que la borne coûte, on va dire, presque rien. Alors, évidemment, elle vaut déjà quand même 600 euros TTC, donc c'est tout de même de l'argent. Mais il faut savoir que c'est le simple démarrage. Notre objectif chez Watt Park, c'est de pouvoir, dès 2021, de produire 1000 de ces bornes par jour. Donc ça veut dire que ça ne sera pas dans les 600 euros, ça sera bien, bien moins cher que ça. On peut partir du principe que ça sera la moitié.
Comparé
à une borne qui n'est pas intelligente, qui ne permet pas de réserver, qui ne permet pas de faire autre chose que de se brancher, qui vaut actuellement plus de 1200 euros.
Ah oui.
Donc on a un prix qui est vraiment complètement à côté. Et en fait, comme il y a des prestations qui sont liées, en fait, le fait qu'il y a le dialogue entre le téléphone et la borne, on intéresse à la fois les collectivités, à la fois les syndicats, à la fois les entreprises, parce que si vous êtes une entreprise et que vous avez une personne qui a une voiture électrique, ça ne pose pas de problème, vous pouvez lui offrir l'énergie. Maintenant, si vous en avez 100, ça représente un budget, et de toute façon, vous devez le comptabiliser pour vos comptes. Voilà.
Alors, dernière question, Marc Lepage. C'est vrai que quand on dit une borne intelligente, montrez-nous comment ça fonctionne rapidement. Alors, si vous pouvez incliner... Effectivement, aujourd'hui, la radio est filmée. On va incliner légèrement cette borne, voilà, face à cette voilà. Comme ça, on voit un petit peu comment est-ce qu'avec son application, on va pouvoir dialoguer, comme vous le disiez, avec la borne. Et à partir de là, on a plusieurs possibilités de connexion.
Alors, évidemment, ce que je vais faire à la main, ça se fait automatiquement. Il y a un moteur
alors,
à l'intérieur.
Mettez-vous près du micro, ça va être un petit peu.
Voilà, il y a un moteur à l'intérieur. Donc là, je vais le faire à la main parce qu'il n'est pas branché. Mais en fait, lorsque vous vous approchez de la borne, vous allez présélectionner un type de prise. Quand vous avez une voiture électrique, il y a deux types de prises en Europe. Il y a la prise qu'on appelle E, c'est la prise classique que vous avez murale, et qui permet de charger un scooter, un vélo, etc. Et puis vous avez la prise T2. Donc en fait, le système va pivoter comme ça et présenter en fait la prise correspondante que vous recherchez. Donc ici, c'est la prise E,
ouais.
Ici, c'est la prise T2. Et en fait, chacune de ces prises va délivrer une certaine quantité de courant. Donc cette borne actuellement délivre 16 ampères, ce qui est peu, mais qui représente quasiment... environ 65% du marché. Et ce modèle-là ira jusqu'à 32 ampères, mais n'ira pas au-dessus.
Voilà, et l'histoire a commencé fin 2016, c'est tout récent. Ça va être sur le marché très bientôt. C'est ça, hein. C'est à partir de quand que ça va être commercialisé ?
Alors c'est simple, la première commande, nous l'avons eue aujourd'hui.
Eh ben voilà, bravo.
Et nous avons lancé une production. Donc lorsqu'on est une start-up aussi petite que nous, parce qu'il n'y a que 6 personnes dans notre entreprise, on est en train d'aménager en fait un local de production qui fait 600 mètres carrés.
Ah bah oui, pour
et,
pouvoir en
donc,
produire.
Donc comme quoi, qui est assez important déjà. Et on en produit pour ce mois-ci déjà un millier.
Un grand bravo. Ah,
merci.
Et longue vie à cette belle entreprise. Je suis obligée de vous couper, le temps passe. Merci beaucoup Marc
merci
Lepage. Et encore bravo pour cette première commande. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, je vous souhaite un bon dimanche. À très bientôt.